Vous êtes une association loi 1901 ou des personnes ayant des projets divers et variés. Décibel FM vous ouvre ses micros. L'émission sera retransmise plusieurs fois dans la semaine. Le micro est à vous. Qui veut, vient. Décibel FM, l'écho de vos projets.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Micro est à vous. Une riche émission nous attend, nous allons parler d'histoire, voire de préhistoire. Et nous allons le faire en compagnie de l'association des Amis du Musée de la Raimondie. Elle est située à Martel. Nous accueillons donc Elisabeth Folt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de cette association.
Oui, toujours.
Et vous êtes venue avec Michel Espéret, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes membre actif et spéléologue.
Oui, tout à fait.
Ça a son utilité
Maintenant, la spéléologie peut-être un peu moins, parce que l'âge venant, on oublie.
Oui, mais vous n'avez pas perdu vos connaissances.
Non, pas du tout.
Ah, c'est le point fort alors.
Oui.
Alors peut-être, avant de parler du sujet qui va nous animer aujourd'hui, l'ours des cavernes, je vous propose, Elisabeth, peut-être de nous présenter l'association, ou déjà peut-être amis du musée de la Raimondie, peut-être nous parler du musée dans un premier temps.
Alors oui, eh bien le musée continue à se développer. Je ne dirais pas grâce, puisque le musée est municipal et musée de France et qu'il existait avant que l'association soit créée en 2015. Mais disons que notre équipe, en particulier avec Michel, qui est notre technicien et qui fait beaucoup de petits travaux dans le musée, disons grâce à notre équipe assez dynamique, on va dire, et même pour pas dire très dynamique, nous faisons progresser la connaissance et la diffusion de ce musée à travers le territoire, mais aussi maintenant bien au-delà du territoire, puisque hier encore, il y a des gens qui sont venus. Le musée n'est pas encore ouvert, il ouvre à partir du 20 juin, mais il y a des gens qui viennent et qui réservent des visites ou qui ne sont pas privés, mais qui sont hors période d'ouverture, voilà.
C'est un musée qui est basé à Martel et qui présente un musée qui est historique, et qui traite de quelle période ?
Ah bah écoutez, de quelle période ? Je vais vous dire toute, pour commencer, puisque nous avons des objets de la préhistoire, à peu près tous les niveaux de la préhistoire, du paléolithique inférieur au pas beaucoup quand même là. Paléolithique supérieur, ensuite le mésolithique, ensuite le néolithique, ensuite la période gauloise et la période gallo-romaine, pas non plus énormément mais quand même, et nous avons ensuite des objets qui datent du Moyen Âge et qui sont plutôt spécifiques à Martel et à sa région. Et les plus récents remonte au XVIIIe siècle avec de très très beaux, une belle collection de pots à pharmacie qui viennent de l'hospice de Martel, et maintenant l'hospice c'est la maison de retraite, voilà.
Ah d'accord, donc
oui, voilà, mais l'hospice a été créé au XVIIIe siècle, donc nous avons les pots à pharmacie puisqu'il y avait une pharmacie à l'intérieur de cet hospice qui était tenu par des religieuses. Donc vous voyez, nous avons toutes les périodes. Et nous voulons les conserver parce que Martel est plutôt une ville fondée sur, disons, sur la période moyenâgeuse, mais que comme il y a les environs, il n'y a pas que cela dans notre musée. Et donc nous y tenons parce que c'est aussi notre culture historique en quelque sorte.
Vous proposez du coup des animations régulièrement, oui, qui voilà. Sont souvent des conférences, et c'est aussi le programme de vos animations et le reflet finalement de vos collections,
oui,
parce qu'elles traitent aussi de périodes diverses, voilà, avec des intervenants variés.
Et bien cette année par exemple, nous aurons 6 conférences au total. La plupart se font en dehors des périodes de grande
affluence touristique.
De grande affluence, c'est-à-dire elles commencent soit en février, soit en mars. Et cette année, en mars, nous avons eu la circulation des chasseurs-cueilleurs avec Pierre-Yves de Mars. Et donc, c'était très intéressant parce que ça touche à notre connaissance préhistorique, hein, puisque c'était au Paléolithique. Ensuite, nous avons eu une conférence sur le Moyen-Âge, le bestiaire médiéval, qui a étudié toutes les enluminures de la représentation des animaux. Mmh. Et moi, j'ai trouvé que c'était passionnant parce que, d'abord, c'était une jeune conférencière qui vient de faire sa thèse sur le bestiaire médiéval. Et deuxièmement, donc, outre la fraîcheur, puisque nous ne sommes pas tout jeunes, hein, outre la fraîcheur qu'elle apportait, il y avait un renouvellement sur les idées que l'on peut se faire de nos animaux et de leur représentation à travers les siècles.
Est-ce que l'affluence est la même selon la période traitée ? J'ai l'impression que la préhistoire rencontre pas mal de succès sur notre territoire.
Oui, c'est vrai. Et pour écouter, on le voit à la fréquence du public, pour Pierre-Yves de Mars, les salles sont toujours pleines en général.
C'est vrai ?
Oui. Oui, oui, c'est vrai. Et alors, il y a quand même une conférencière qui déplace les foules, qui est venue, ben, elle avait, oui, il y avait à peu près 70 personnes. Donc, Pierre-Yves de Mars, c'est pareil. Donc, le nombre du public, et on a un public qui va, la basse Corrèze, hein, mm-hmm. forcément, puisque on est très près. La basse Corrèze, l'est du département, l'ouest du département, le Causse, en général, c'est variable.
Est-ce que vous pensez que la gratuité y est pour quelque chose ? Vos conférences sont toujours sur libre participation. Est-ce que aussi cela joue ?
Oui, les conférences sont toujours en libre participation. On a l'habitude d'organiser un petit pot à l'issue de la conférence où les gens peuvent continuer à échanger. Je ne sais pas si c'est à l'origine parce que il y a une participation libre, les gens donnent ce qu'ils veulent. Ils savent bien que pour que l'association puisse vivre, il faut nous aider un peu. Donc on reçoit des adhésions nouvelles. Cette année, on en a eu pas mal, par exemple. On en a eu presque une dizaine.
Donc si je comprends bien, vous avez à peu près 70 membres dans
oui.
l'association.
Oui, on est D'accord. à peu près à 70 maintenant.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant peut-être de la prochaine conférence, celle qui va avoir lieu le vendredi 22 juin ? Parce que souvent, vous donnez rendez-vous le samedi, donc on va être précis, cette fois, c'est oui. le vendredi. Je vais peut-être laisser Michel Espéré annoncer le titre de cette conférence.
À 20h30.
Alors, la conférence du vendredi 22 juin sera sur l'ours des cavernes qui concerne le Quercy bien particulièrement puisqu'on en trouve assez fréquemment, nous autres spéléologues, en pratiquant notre activité. Et cette conférence aura la particularité d'être animée par trois personnes en même temps. Michel Philippe, paléontologue, qui s'occupe spécialement des ours des cavernes, l'étude des os. Michel Laure Blanchet, qui est le spécialiste de l'art des représentations pariétales, voilà, je cherche le mot, excusez-moi, pariétales des ours, et Jean-Louis Tocaven, qui est un spéléologue aussi confirmé, qui nous parlera d'une découverte à Souillac, d'une grotte dans laquelle on a recensé presque une dizaine de bauges d'ours, c'est-à-dire l'emplacement où ces ours dormaient.
C'était voilà. Il y a combien de temps cette découverte ?
Cette
c'est pas
découverte
banal.
A été faite en 2008, vous voyez, c'est assez récent.
D'accord, une découverte donc récente du côté de Souillac. Est-ce que vous avez plus d'informations sur la grotte dans laquelle elle a été découverte ?
Ben, on ne peut pas donner d'autres informations parce que cette grotte est fermée, protégée, donc on ne peut pas dire exactement où elle est. Je vous dis, c'est dans la région,
non, mais à
la région de Souillac.
Ou...
Alors, oui, la profondeur, non. C'est une grotte qui se situe sur un versant de colline et qui est pratiquement horizontale.
D'accord.
Alors, l'entrée par laquelle ont pénétré les ours autrefois, on ne la connaît pas.
Oui.
La grotte est fermée de tous les côtés. On l'a découvert parce qu'on a procédé à ce qu'on appelle une désobstruction, c'est-à-dire qu'on a retiré des cailloux, des blocs, et qu'on a réussi à passer dans la cavité. Et donc ça, c'est l'équipe de Souillac, les spéléologues de là-bas.
Donc Jean-Louis Tancaven viendra parler de sa découverte spécifiquement. Et vous, Michel Espéré, de quoi allez-vous nous parler, puisque vous êtes aussi spéléologue. Donc, est-ce que vous aussi, vous êtes tombé durant vos, vos balades dans le centre de la Terre sur des ours.
Oui, alors je vais vous expliquer, puisque au musée, nous avons la chance d'avoir un crâne complet d'ours de caverne, un ursus donc, qu'on appelle Ursus peleaus, un animal qui vivait au Pléistocène, avec les rhinocéros poilus, le mammouth, le lion des cavernes, la hyène des cavernes. À cette époque-là, il y avait pas mal d'animaux. Voilà, dans toute l'Europe d'ailleurs, pas que seulement dans notre région, ni même en Espagne. D'ailleurs, les régions où vivaient l'ours des cavernes étaient des régions boisées. Les régions de steppe, comme le nord, étaient très peu peuplées en ours de cavernes. Et donc, voilà, on ne sait pas. On justifie le nom de l'ours des cavernes parce qu'il hivernait dans les grottes, il y vivait, il y mangeait quelquefois, et même il mettait bas tous ses petits à la naissance, et à la vieillesse, il venait y mourir.
Ah, ce qui explique qu'on ait retrouvé une dizaine d'ours du côté de la grotte de Souillac, peut-être.
Voilà, et un peu. Et dans de nombreuses grottes, on retrouve des couches d'os appartenant presque exclusivement à l'ours. Vous voyez d'où l'ours des cavernes. Par rapport à l'ours brun qui, lui, vit occasionnellement dans les cavernes pour hiverner, l'ours des cavernes vivait vraiment à proximité de sa tanière.
Michel, excusez-moi, vous avez une approche scientifique, c'est tout à fait passionnant, mais j'aimerais avoir une approche plus empirique, connaître, que vous me décriviez ce que ça fait quand on est plongeur, spéléologue, et que l'on découvre un crâne d'ours comme ça, de la préhistoire, datant de la préhistoire de plusieurs milliers d'années.
Alors c'est très excitant, comme on dit. Moi personnellement, j'ai participé donc à une grotte qui est dans le Lot, qui s'appelle Gorf. Volontairement, on a donné ce nom, ça veut dire la grotte aux ours de Roquefumade. Et cette grotte, elle est pareille, elle est cachée un peu pour que personne n'y aille faire de fouilles, étant donné qu'on y avait trouvé 5 crânes d'ours et des ossements complets. Voilà. Alors il était autrefois, les spéléologues étaient très méfiants avec les paléontologues, parce qu'on avait toujours peur qu'en découvrant une cavité, on nous la fasse fermer, on puisse plus faire notre spéléolo dedans. Mais en fait, non, avec les nouvelles pratiques, aujourd'hui, on est beaucoup plus près des archéologues et des paléontologues. On leur signale plus fréquemment toutes nos découvertes, parce qu'elles sont nombreuses.
D'accord. On va parler avec Elisabeth peut-être un peu de l'autre intervenant qui sera présent ce soir-là, du vendredi 22 juin, pour cette conférence sur l'ours des cavernes. Il s'agit de Michel Laure-Blanchet. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec lui, bien
non,
en
non,
collaboration.
Non, il est déjà venu.
Vous nous le présentez.
Oui, alors Michel Laure-Blanchet est un préhistorien très connu dans notre région. Il est originaire de Vérac et disons que ce territoire est lui rappelle toute sa jeunesse, toute son enfance. Michel Laure-Blanchet est spécialiste de l'étude des dessins, des dessins ou des peintures sur les parois rupestres. Et il fait partie des membres actifs, mais voilà, mais de l'association. Il est sympathisant, très participatif. La première année, lorsque nous nous sommes fondés, il était venu faire une conférence avec Monsieur Laporte. Et cette conférence portait sur, disons, l'histoire de la nourriture depuis l'époque préhistorique jusqu'à aujourd'hui, en gros. C'était passionnant et donc il est toujours passionnant, et évidemment, on l'aime beaucoup aussi.
Est-ce que vous savez, parce que Michel, vous êtes un futur conférencier pour ce moment autour de l'ours, et j'ai envie de dévoiler à nos auditeurs que vous êtes venu avec plein de documents. Elisabeth, vous avez le dernier livre de Marilène Patou-Matisse, grande préhistorienne, pour tout savoir de l'homme de Néandertal. Et vous, Michel, vous avez quand même pas mal de documents, des photos de cavités, des photos, des représentations aussi des ossements de ces ours. Qu'aurez-vous le soir de la conférence à présenter au public ?
Personnellement, je m'occuperai pas de la conférence du tout.
D'accord.
C'est pas moi qui vais rentrer dans le jeu de la conférence. Probablement, j'apporterai le crâne de l'ours exposé pour les gens.
Ah ! Quelle attraction !
Oui, parce que quand même, c'est assez exceptionnel de l'avoir entier.
Ah ben là, vous faites un geste...
45 centimètres.
Ouais, bah ça fait que vous écartez pas mal vos mains l'une de l'autre.
C'est une grosse tête.
Une grosse tête.
J'ai une toute petite précision. Disons que l'ours des cavernes adulte faisait jusqu'à 3,5 mètres de hauteur.
Oui.
Hein, c'était une bête. Hein. Et debout.
Pour que les gens se rendent compte, l'ours des cavernes était 2/3 plus grand que l'ours aujourd'hui brun.
Un peu sur le principe de tous les animaux de la préhistoire évoqués.
Pas tous, mais bon.
C'est vrai, le lion des cavernes n'est pas aussi plus gros que les lions d'aujourd'hui, hyènes.
Oui. Ils étaient tous légèrement plus forts.
Oui, c'est vrai. Remarque, même le lièvre. Même le lièvre, il était plus gros que celui d'aujourd'hui.
Donc vous viendrez avec ce côté pratique et ludique d'apporter une pièce
tout
découverte.
Jean-Louis... Je m'occuperai de l'organisation, mais pas de la conférence. Les conférenciers, c'est les trois personnes que nous avons citées. Je n'interviendrai pas.
D'accord. Alors Jean-Louis Tankaven, lui, peut-être parlera de sa découverte.
Absolument, il va en parler parce qu'il est passionnant, lui aussi. Il est le président du Spéléoclub de Souillac et c'est lui aussi qui s'occupe du musée du Piage.
D'accord. Oui, bah oui, c'est vrai que
je l'ai vu dimanche parce que il était très actif là-bas.
D'ailleurs, le site réouvre, le site du Piage, bien sûr, pour la saison et propose aussi plein d'animations autour de la préhistoire. Oui. Et ensuite, Michel-Laure Blanchet, lui, présentera les représentations donc, de ces animaux, c'est-à-dire qu'il a fait un inventaire. De ces représentations dans les cavernes d'Europe
Il va
reste cantonné un petit peu égoïstement dans le Quercy.
Oui, parce que franchement, on a déjà fort à faire avec le Quercy.
Honnêtement, parce que voilà, il y a cette découverte à Souillac, mais sur les représentations des ours des cavernes dans le Quercy, il y a fort à faire.
Il y en a. Alors, il a précisé que les figurations pariétales d'ours en Quercy. Donc, peuvent porter sur l'ours des cavernes, mais aussi sur l'ours brun. Et il y a trois grottes. La grotte de Béchemerle,
très
connue bien.
Très, voilà. Très connue aussi.
La grotte de Roucadour, moins connue.
Nettement moins connue, qui est située où, cette grotte?
Près de Gramat.
Elle est visible par tout un chacun?
Non, elle n'est pas visible. Parce que...
C'est une grotte privée?
Non, mais
toutes les grottes qu'on défend, où on découvre des peintures, où on trouve quelque chose d'intérieur, on les ferme. On met des protections pour éviter que ce soit détérioré.
Parce qu'il faudrait des aménagements pour qu'elle soit ouverte au public. Et pour le moment, il n'y en a pas eu. Donc, elle est protégée, disons.
D'accord.
Ce qui n'empêche pas quand même qu'elle soit parfois visitée. Et Sainte-Eulalie. La grotte de Sainte-Eulalie, c'est plus au sud.
Et pareil, une grotte qui n'est pas visible.
Je ne sais pas, là, je ne peux pas vous répondre.
Bon, c'est pas comme Béchemerle, il n'y a pas de visite pour le public,
non,
a priori.
Non.
Béchemerle, si, elle est aménagée.
Oui, mais pas comme la grotte de Sainte-Eulalie celle de Béchemerle.
Non, parce que ce sont quand même, il faut bien voir la chose, c'est que dans certaines grottes, il y a une représentation.
Bien sûr.
C'est tout. Donc, l'intérêt pour le public d'aller voir un dessin...
Oui,
c'est pas non plus rigolo, quoi.
C'est millions d'années qui nous séparent de cette peinture.
Oui, voilà, mais c'est vraiment des gens motivés.
D'accord.
Oui, ce sont des gens motivés. Par contre, nous, on était très motivés parce que depuis que Michel a fait don au musée de ce crâne d'ours, moi, je vois les enfants, ils sont passionnés, surtout lorsque je leur dis... Tu sais, l'ours, il était très haut, plus haut que le plafond, il pesait 550 kilos. Oh, et en plus, on a des crottes d'ours, les fameux...
Les croplites.
Ce sont donc les déjections. On a mis des photos, des photos sur des bauges, justement. Et
dans la vitrine qui est représentative de l'ours au musée de la Raimondie, nous avons donc ce crâne d'ours. Nous avons... une autre mâchoire d'un autre ours. On a des photos de griffades des ours dans la grotte de Souillac. On a des photos des bauges les plus représentatives de la grotte de Souillac. Alors, c'est des choses qu'on ne peut pas déplacer. Donc, on les photographie, on les expose. Voilà.
Après, il y a quelque chose, quand on vous disait qu'il y avait parfois des grottes avec une seule représentation, il y a des grottes dans le Périgord, c'est Roufiac, je crois, qui, elles, comportent quasiment que des représentations de mammouths. Alors je m'interroge, est-ce que l'ours aurait eu comme ça une grotte où les hommes...
Une grotte à lui.
Où les hommes auraient exclusivement représenté des ours, parce qu'il y a des historiens spécialistes de bestiaires qui défendent des théories de culte.
Non, à ma connaissance, non. Justement, l'ours est très très peu représentés oui. dans les peintures pariétales. On en a à la grotte Chauvet, il y en a un ou deux, je crois. On en a aussi dans la grotte Cosquer, qui a été découverte du côté de la Ciotat, là-bas, côté de Marseille. Mais très, très peu.
Alors, sait-on des relations qu'entretenaient les hommes de la préhistoire avec les ours ?
Cela dépend des hommes, selon que l'homme de Néandertal entretenait des relations, je dirais pas courtoises, parce que ça serait ridicule, mais il chassait peu l'ours des cavernes.
Dangereux peut-être ?
Oui, peut-être, parce qu'il était dangereux. Il aurait pu quand même le chasser, il aurait pu, et certainement parfois, il ne faut pas exagérer, il a pu le chasser parce que la viande était comestible. Alors l'ours des cavernes, ce n'est pas l'ours brun, il était herbivore cet ours des cavernes. Mais peut-être l'autre raison, c'est qu'il y avait une sorte de mythe.
Un culte.
Voilà, une sorte de culte. C'est ce que Marilène Patou-Matisse dit dans son...
Oui, probablement, l'ours étant un bipède, il ne faut pas l'oublier, il se tient debout, il marche très bien debout.
Il peut le faire, oui.
Et donc, il y avait peut-être une adoration des hommes de cet animal qu'il peut-être imaginait être comme eux. Oui. Un être humain. Quoi.
Après, c'est peut-être comme tout le temps, tout cela, ça évolue, ça change avec le temps. Je t'aime moi non plus, au Moyen-Âge, l'ours... Oui.
L'ours continue d'avoir un mythe, hein, puisque vous avez, au sud de Toulouse, il y a, je ne sais plus le nom de ce village, mais il y a ce qu'on appelle les fêtes de l'ours. Et donc, on peut imaginer qu'autour de l'ours s'est construit... une sorte d'auréole autour de l'ours des cavernes, une sorte d'auréole, peut-être comme dit Michel, parce que c'est un homme, j'allais dire, c'est un animal qui peut se tenir debout. Donc il s'est construit quand même une sorte d'auréole qui fait que l'ours est respecté par cela, mais aussi respectable par ses dimensions. Donc là, mais c'est justement ce que la conférence pourra peut-être
expliquer.
Oui, nous expliquer.
On se pose des questions. Il est vrai qu'on a trouvé des crânes d'ours bien exposés dans des grottes. Ah. Et on sait que c'est l'homme qui l'a placé là.
Ah, d'accord.
À côté de silex et de taille et tout ça, on a trouvé des crânes d'ours. Alors, pas de l'ours du caverne, on sait que c'est de l'ours brun. Mais voilà, on sait que ça a été mis en valeur... dans les grottes.
Donc c'est quelque chose qui est quand même assez récent, en termes de préhistoire,
Oui, oui, quand même récent, oui, non, je pense que c'est...
J'avais lu un roman écrit par M. Lagaski, donc c'était à propos du néolithique, et il parlait de la formation des jeunes, des enfants dans ce roman. Et l'enfant chasse un ours et donc va porter au cou, va porter une dent. Une canine d'ours. C'était vraiment l'animal qui, lorsqu'on avait réussi à le vaincre, donnait une importance à l'humain, en quelque sorte.
Fort possible, ça. Oui.
Est-ce que vous voulez préciser autre chose ici sur cette ours des cavernes, sur cette conférence, ou encore sur votre association ?
Que préciser ? Bah, écoutez, nous attendons vraiment beaucoup de cette conférence parce que nous aimerions développer cette partie de la vitrine, carrément même peut-être en acheter une autre où on aurait davantage d'explications pour nous, mais aussi pour les enfants, car je vous le rappelle, ils sont très impressionnés par les animaux. Et puis, on peut dire aussi que ce sera la dernière pour la saison du printemps. Voir là, c'est le début de l'été. Et la dernière conférence au musée se fait en novembre avec M. Laurent Wirth qui nous parlera de la place des Gaulois dans le roman national.
Ah,
voilà, c'est encore toute une histoire.
C'est une autre histoire.
On va faire un pont avec l'époque moderne. Moi, j'en ai une dernière question. Vous avez évoqué les enfants, Elisabeth, et j'ai vu que des fois, pendant les vacances, vous organisiez des ateliers qui leur étaient destinés. Sur les conférences, allez, les plus jeunes...
Ah non, alors là, les conférences en général, malheureusement, c'est...
Il n'y a pas de lycéens passionnés
Non, c'est un peu le troisième âge quand même, malgré
bon,
tout.
Bon, après, c'est la réalité de notre territoire aussi.
C'est la réalité du territoire, mais c'est vrai que, à part pour Émilie Nadal et le bestiaire médiéval, on n'a pas en général beaucoup de jeunes. Alors, il y a un autre aspect de la vie de cette association, c'est Madame Schneider, Agnès Schneider, qui va dans les écoles primaires qui veulent bien l'accueillir et qui en général, alors jusqu'à présent, elle est allée à Martel, bien sûr, à Souillac et à Vérac, et elle a parlé de la première année, c'était sur les dolmens, puisqu'on en a beaucoup dans le nord du Lot, et qu'on avait organisé une exposition avec Jean-Pierre Giraud sur les dolmens du nord du Lot. Mais l'année dernière et cette année, elle a parlé des Gaulois, puisqu'on a réalisé une exposition sur Uxellodunum et les Gaulois.
Vous travaillez aussi souvent avec une autre association qui cherche à promouvoir l'histoire, les Amis d'Uxellodunum, basée à Vérac.
Les Amis d'Uxellodunum, on a plusieurs associations. Il y a Racine, qui est là depuis le début, qui nous a toujours soutenu, l'association de Gramma.
Alvignac, je crois.
Enfin, oui, c'est Alvignac. Ensuite, il y a les Amis du Uxellodunum à Saint-Denis-les-Martel.
Pardon.
C'est Saint-Denis. Et il y a aussi plus ou moins les Amis du Piage, quand même. Mais il y a l'association de la Chapelle aux Saints.
Oui, le musée de l'homme de Néandertal.
Voilà, le musée de l'homme de Néandertal. Et donc, on échange nos calendriers.
Ah.
Il y a ce réseau de diffusion. On envoie les messages. D'ailleurs, il y en a beaucoup de messages dans ma boîte aux lettres.
Oui, mais bon.
C'est bien.
Parce que ça nous permet d'éviter de parler de la même chose. En sachant que les uns parlent de ça, nous, on va parler d'autres choses. Quoique ça reste dans les mêmes époques,
ce n'est pas redondant.
Ouais, voilà.
Non, pas redondant.
Mais écoutez, je rappelle à nos auditrices et auditeurs la conférence qui s'annonce passionnante sur l'ours des cavernes, qui sera donnée le vendredi 22 juin au Palais de la Raymondie à Martel. C'est à 20h30.
Bonne journée à vous tous.
Vous êtes une association loi 1901 ou des personnes ayant des projets divers et variés. Décibel FM vous ouvre ses micros. L'émission sera retransmise plusieurs fois dans la semaine. Le micro est à vous. Qui veut, vient. Décibel FM, l'écho de vos projets.